nouvelle année. Une de plus ou une de moins, selon la perspective que l'on adopte. Mais quel que soit le point de vue adopté, 2023 s'est offert à chacun de nous comme 365 cases blanches à remplir. Et la question qui se pose et que je pose ce matin est celle-ci. Qu'allons-nous faire de 2023? Qu'allons-nous faire en 2023? Comment allons-nous remplir toutes ces cases vides? Qu'allons-nous y mettre? Et puis, qu'est-ce qui n'y figurera pas? Il y a tant de choses à faire dans la vie. Toutes celles qui sont indispensables, obligatoires. Il y a tant de choses intéressantes. Il y a tant de choses passionnantes. Il y a tant de possibilités. Oui, les possibilités ne cessent d'augmenter. Les nouvelles technologies, par exemple, ont repoussé tant de limites et créé tant de nouvelles offres. Nous n'avons que l'embarras du choix pour remplir toutes les heures libres de notre vie. Des heures libres qui, pour la plupart des Français, ont bien augmenté ces dernières décennies. Quand on considère, par exemple, ou entre autres, la question des 35 heures, la question des RTT, des jours de paternité, et j'en passe. Pourtant, si les possibilités sont toujours plus nombreuses, si le temps de travail n'a cessé de baisser ces dernières décennies, si l'espérance de vie continue d'augmenter dans le monde occidental, les journées, frères et sœurs, n'ont toujours que 24 heures. Et puis, si tout est possible, tout n'est pas utile. Tout n'est pas nécessaire. Tout n'est pas indispensable. Il y a toujours des choix à faire. Devant ces quelques évidences brossées à grands traits, reste la question des 342 cases blanches restantes à remplir en 2023. Faites-moi confiance, j'ai fait le calcul. Et puis, il y a des projets qui sont spécifiques à cette nouvelle année. Il y a tout ce que nous aimerions accomplir. Il y a les objectifs que nous aimerions atteindre. Il y a les rêves que nous aimerions enfin concrétiser. Et puis, il y a aussi tout ce que nous ne maîtrisons pas, tout ce que nous ne prévoyons pas, tout ce que nous ne pouvons pas prévoir, et tout ce qui va nous tomber dessus à un moment ou un autre en 2023 sans que nous ayons pu le prévoir, tout ce qui nous sera imposé, un mariage, une naissance, un décès. Tout ce qui, bien malgré nous, frères et sœurs, va remplir certaines cases de 2023. Ceci dit, il restera après tout cela, tout ce que nous prévoyons ou tout ce que nous ne prévoyons pas, il restera encore beaucoup de cases vides, beaucoup d'heures à remplir en 2023. Et il nous faudra faire des choix. Choix d'un pasteur. Choix d'une direction, choix d'une nouvelle vision. Ceci dit, pour nous qui voulons vivre à la suite du Christ, l'enjeu n'est pas seulement le contenu de ces cases vides de 2023, mais qu'est-ce que je vais y mettre? Mais aussi la manière dont je vais la remplir, les remplir. Avec quelle motivation je vais remplir ces cases? Avec quel principe de vie? Avec quelles limites? Avec quels objectifs? Avec quelles priorités? Et oui, la question des priorités, on y revient toujours, n'est-ce pas? C'est une question cruciale dans notre vie, dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, en début d'année, on parlera assez souvent de priorités. Quelles sont mes priorités? Quelles sont vos priorités pour 2023? Et encore plus important que cette question qu'il est déjà, Dieu a-t-il sa place dans vos priorités, dans mes priorités pour 2023? Dieu a-t-il sa place dans mes projets, dans vos projets? Dieu a-t-il sa place dans le remplissage de ces 342 cases qu'il reste jusqu'à la fin de l'année? Et c'est bien en réfléchissant à la question des priorités, frères et sœurs, que le verset biblique de ce matin s'est petit à petit imposé à moi. C'est un verset connu, c'est un verset très connu, mais peut-être même trop connu. Et je dirais sans doute, nous n'y prêtons plus attention, tout à fait attention, comme nous devrions le faire. C'est souvent le danger de la routine, me direz-vous. C'est souvent le danger de tout ce qui nous est familier, ce dont on pense avoir fait le tour de la question. Je sais, nous en avons tous entendu des kilomètres et des tonnes sur le verset qui va s'afficher à l'écran dans quelques instants. Il nous arrive même de le chanter. Il fait partie d'une certaine manière des murs, partie du décor, partie de l'ambiance, partie de la culture évangélique chrétienne. Ce verset, c'est le verset de l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 33. Matthieu, chapitre 6, verset 33. C'est une parole de Jésus, une de plus, connue sans doute. Elle pourrait presque trouver sa place dans la série, non pas des paroles compliquées, parce qu'elle n'est pas compliquée, mais des paroles exigeantes de Jésus. Cette parole se trouve dans le sermon sur la montagne. Et Jésus dit, cherchez premièrement son royaume. Il parle du royaume de Dieu, bien évidemment. Et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. On pourrait, ou je dirais, je pourrais pratiquement me permettre une petite adaptation ce matin de dire, cherchons à Argenteuil premièrement en 2023 le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela nous sera donné par-dessus. Dieu a-t-il sa place dans ma vie? Dieu a-t-il sa place dans ma vie de tous les jours? Dieu aura-t-il sa place en 2023 dans le remplissage de toutes ces cases restantes? Est-ce que je vais lui laisser les miettes ou est-ce que je vais l'inviter à prendre la place d'honneur? Une place qui lui revient de droit dans ma vie. Parce qu'il est mon Créateur, parce qu'il est mon Dieu et puis parce qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur par Jésus-Christ. Alors, je vous invite de réfléchir à toutes ces questions que je viens d'énoncer les unes après les autres en réfléchissant au sens de cette parole de Jésus. Que veut dire chercher le royaume de Dieu et sa justice? Et puis, comment chercher le royaume de Dieu et sa justice? Et puis encore, troisième question, que se passe-t-il quand nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Alors, avant de creuser le texte, j'aimerais avec vous lire dans son contexte immédiat ce texte. Parce qu'à un moment donné, dans notre développement, cela aura son importance. Matthieu, chapitre 6, je lis à partir des versets 24. Prenez avec moi ce texte. Matthieu 6, à partir du verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au fou, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, frères et sœurs, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La première question que j'aimerais poser devant cette parole de Jésus ici au verset 33 de notre texte est la suivante. Que veut dire chercher le royaume de Dieu? De quoi parle-t-on quand on parle de royaume de Dieu? Il nous faut définir ce qu'est le royaume de Dieu. Et quand Jésus parle ici de royaume de Dieu, frères et sœurs, il n'est pas question de parler de royaume terrestre que nous devrions rechercher ou que nous devrions chercher à rétablir par tous les moyens. Le royaume de Dieu sur terre, ce n'est pas une nation qui aurait fait sienne les prescriptions de Dieu. Ce n'est pas non plus une société où la loi de Dieu aurait remplacé la loi des hommes. En réalité, le royaume de Dieu, c'est simplement le règne de Dieu. C'est là où Dieu règne. Et le royaume de Dieu existe partout, oui, partout, où Dieu règne, où Dieu exerce son règne. Alors, la traduction de la Bible du Semeur et de la Nouvelle Bible Second traduisent d'ailleurs dans ce sens. Ils disent, « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Que demande Jésus à ses disciples ici? En allant à l'essentiel, nous pourrions dire que Jésus demande à ses disciples de chercher premièrement le royaume de Dieu. Il leur demande tout simplement de laisser Dieu régner dans leur cœur, dans leur vie. Chercher le royaume de Dieu, c'est laisser Dieu diriger ma vie. C'est la lui soumettre. C'est faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il en soit ainsi, pour que Dieu règne dans ma vie chrétienne. Qu'en est-il de la justice de Dieu? Jésus ne demande pas seulement à ses disciples de chercher le règne de Dieu et le royaume de Dieu, mais aussi sa justice. Que faut-il comprendre par là? Que cela veut dire quoi chercher la justice de Dieu? Et pour faire simple, là aussi, je dirais que chercher la justice de Dieu, c'est rechercher, comme cette traduction, enfin les traductions l'ont souligné, ce qui est juste aux yeux de Dieu. La traduction du Semeur est une traduction qui n'est pas littérale, mais qui va chercher à traduire le sens des mots plutôt que les mots eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle que c'est formulé ainsi. Faites donc du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Jésus demande donc dans ce verset deux choses à ses disciples. Il leur demande de laisser Dieu régner dans leur vie. Est-ce que Dieu règne dans nos vies ce matin? Et de vivre aussi, il leur demande de vivre d'une manière qui est juste à ses yeux, aux yeux de Dieu. Est-ce que nous vivons d'une manière juste aux yeux de Dieu? Et vous constaterez, si vous mettez ces deux requêtes ensemble, vous arriverez très vite au constat qu'elles sont très proches finalement. Je dirais même qu'elles sont pratiquement synonymes en réalité. Quand Dieu règne dans ma vie, quand je laisse Dieu régner dans ma vie, cela se traduit nécessairement par ce qui est juste à ses yeux. Et quand je fais ce qui est juste à ses yeux, quand je recherche ce qui est juste à ses yeux, et je parle ici du disciple que nous sommes tout un chacun, c'est parce que Dieu règne dans ma vie. Mais ce n'est pas tout. Jésus ne se contente pas de demander ces deux choses, il dit aussi de quelle manière nous engager dans cette démarche, dans cette recherche. Et c'est ce qui m'amène à poser la deuxième question. Comment chercher le royaume de Dieu et sa justice? Et la réponse, elle est bien évidemment dans notre verset aussi, si nous le lisons bien. Comment chercher le royaume de Dieu et sa justice? Chercher premièrement. Chercher premièrement. Premièrement, c'est un adverbe qui signifie en premier lieu, n'est-ce pas? Je ne suis pas très très bon en français, mais c'est un adverbe. Et premièrement, nous devrions rechercher Dieu premièrement, son royaume et sa justice premièrement, avant toute chose, avant moi-même, avant mes intérêts personnels. Je dois rechercher Dieu, sa justice et son royaume avant toute chose. Et vous le savez, un adverbe modifie un verbe et le sens du verbe même. Et ici, en l'occurrence, il s'agit du verbe chercher. Nous ne devons pas seulement chercher à laisser Dieu régner dans nos vies, dans notre vie, une fois de temps en temps, le dimanche matin par exemple, ou alors quand notre conscience nous travaille. Et alors nous faisons ce que j'appelle un petit check-up, un petit point de route, et puis on passe à autre chose. Mais non, nous devons le faire en premier lieu, en priorité, comme chapeautant tout le reste de notre vie. Et il est bon pour nous de nous rappeler ce matin qu'il n'y a rien avant premièrement. Il n'y a rien avant premièrement. Ça n'existe pas. Premièrement, c'est en premier. C'est avant tout le reste. Et premièrement, bien évidemment, c'est un mot qui va nous parler de priorité. Et ici, dans ce texte, cela nous invite à donner à Dieu la priorité. Dieu a-t-il la priorité dans ma vie? Dieu a-t-il la priorité dans nos vies? Cela aussi m'invite à lui donner la première place, à le laisser d'être le premier en tout. Alors vous me direz que ce sont des paroles tout à fait orthodoxes, bien sûr. Je pense même qu'on est quasiment tous certainement d'accord avec tout ça. Et en tout cas, si nous sommes disciples du Seigneur, si nous avons le Christ en nous, si nous avons compris le béaba de la vie chrétienne, nous ne pouvons qu'être d'accord avec le fait que Dieu mérite la première place dans nos vies. Mais être d'accord avec quelque chose ne veut pas dire que c'est facile d'y arriver. Être d'accord avec quelque chose ne veut pas dire que nous y arriverons toujours, ou même que nous le voulons toujours. Il y a souvent un décalage entre la théorie et la pratique, n'est-ce pas? Un décalage que nous pouvons malheureusement, je pense, tous constater à divers degrés dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Un décalage entre ce que nous croyons, ce que nous affirmons et ce que nous vivons parfois. Comme le dit Jésus dans un autre contexte, qui a été cité ce matin dans une prière, celui de la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et s'il y a un domaine où cette parole de Jésus se vérifie trop souvent, sans doute, trop souvent malheureusement, c'est certainement dans celui de la première place que Dieu demande à chacun d'entre nous dans notre vie. Et pour bien prendre la mesure de l'enjeu en question ici, il faut que nous comprenions la difficulté pour nous, pour chacun de nous, n'est pas seulement les obstacles ou les difficultés qui peuvent surgir sur notre chemin pour nous empêcher, mais la difficulté, c'est que nous voulons tout prendre pour nous-mêmes et faire les choses nous-mêmes. Nous voulons prendre la place de Dieu. Laissons Dieu faire son travail. La vraie difficulté, frères et sœurs, pour vivre cette parole, elle est en chacun de nous. Merci, mon frère. Elle est au plus profond de nous. La vraie difficulté, c'est de faire cela. C'est que faire cela, frères et sœurs, cela ne nous est pas naturel à aucun de nous. L'essence même du péché, c'est de prendre la place de Dieu. Et ce n'est certainement pas de lui donner la première place dans nos vies. C'est-à-dire cette place d'honneur qui lui revient. Pourquoi ? Parce que nous avons usurpé cette place. Et nous nous sommes assis sur le trône de notre vie. Nous voulons tout diriger. Et nous prétendons être des fils et des filles de Dieu. Notre nature pécheresse est fondamentalement indépendamment de Dieu, indépendante de Dieu, frères et sœurs. Et donner la première place à Dieu dans nos vies, c'est d'aller à contre-courant. C'est de faire quelque chose qui ne nous est pas naturel. C'est même nous faire violence. Vous savez, lorsque je faisais les études pour les jeunes fiancés et les mariages, il y avait, j'évoquais un texte qui s'intitulait « L'amour vrai attend ». Et beaucoup de jeunes me disaient que « Mais nous, si on va à contre-courant, quand on va au lycée, on n'est plus à la mode. » Eh bien, frères et sœurs, c'est ça. Il faut, pour laisser Dieu, la première place à Dieu dans nos vies, il faut que nous puissions aller à contre-courant du monde. Sinon, nous serons contaminés par le monde. C'est aussi, c'est tout sauf une évidence, c'est tout sauf une partie qui est gagnée d'avance. Alors, il serait facile ici de basculer dans le registre moralisateur et légaliste, et j'ai évité d'y aller. Alors, vous me direz à la fin si j'y étais quand même. Mais on pourrait très vite rentrer dans ce registre-là et en définissant, par exemple, alors je prends un exemple pour la lecture de la Bible. La lecture quotidienne de la Bible, la question de la prière quotidienne en fixant un temps minimum, un temps de référence. Oui, beaucoup de chrétiens se fixent un temps. Aujourd'hui, je vais prier pendant 5 minutes. Ouais, mais si Dieu devrait s'occuper de nous 5 minutes dans la journée, frères et sœurs, nous serons bien loin du compte. Le faire, frères et sœurs, ce serait réduire notre relation à Dieu à des aspects comptables. Alors que ce qui compte avant tout, ce n'est pas le temps, mais le cœur, c'est notre cœur qui compte pour le Seigneur. Le faire, ce serait mettre la forme avant le fond. Et vous savez, comme moi, que Jésus n'a pas cessé de le reprocher aux pharisiens. Le faire, ce serait aussi bien mal connaître la complexité de nos vies et leur nature si différente d'une personne à l'autre. Oui, nos vies et nos disponibilités sont si différentes qu'il faut se garder de généraliser, de légiférer ou de comparer. Parce que la vie et les disponibilités de chacun varient. La vie et les disponibilités de chacun, d'un adolescent par exemple, ou d'un jeune étudiant, ne sont pas celles d'un parent avec des enfants en bas âge. La vie et les disponibilités d'un retraité, comme moi, même s'ils sont de plus en plus actifs, ne sont pas celles d'un couple, d'une famille nombreuse, avec plein de jeunes enfants. C'est la raison pour laquelle 10 minutes, je donne quand même un chiffre, mais à titre indicatif, bien sûr. 10 minutes dans un agenda rempli à ras-bord peut facilement correspondre à une demi-heure, une heure pour quelqu'un qui a beaucoup moins à faire. Il faut se garder de généraliser, de légiférer ou de comparer. Et puis mettre Dieu à la première place dans sa vie, c'est avant tout, avant les actes, avant les paroles même. Et je le redis, c'est un état d'esprit. C'est une disposition de cœur. Comment est disposé notre cœur vis-à-vis de nos priorités pour le Seigneur? Et cet état d'esprit, frères et sœurs, cette disposition de cœur va nécessairement se traduire en acte et en parole, mais qu'il est difficile et hasardeux de quantifier. Alors, comment chercher le royaume de Dieu et sa justice? Comment faire du règne de Dieu et ce qui est juste à ses yeux notre préoccupation première? Je vais essayer d'être un peu concret. En fait, quand j'ai réfléchi à comment être concret, eh bien, je me suis vite rendu compte que tous les aspects de notre vie sont bien évidemment concernés. Et donc, j'en avais pour 3 heures. Laisser Dieu régner dans ma vie et rechercher ce qui est juste à ses yeux, c'est bien plus que de lire sa Bible tous les jours. C'est bien plus que de venir au culte tous les dimanches. C'est bien plus que de donner son offrande régulièrement à l'église. Ces choses sont importantes, mais c'est bien plus que cela. Laisser Dieu, frères et sœurs, régner dans ma vie et rechercher ce qui est juste à ses yeux, c'est soumettre à Dieu, par exemple, la gestion de mon temps, la gestion de mon emploi du temps, et aussi la gestion de mon agenda. Bon nombre d'entre nous, et moi aussi, nous avons un agenda. Le Seigneur répond toujours. Bon nombre d'entre nous ont un agenda. Dites-moi, quelle place Dieu occupe dans votre agenda? Y a-t-il un jour sur les 342 qu'il nous reste à faire qui est consacré à Dieu? Y a-t-il de la place pour Dieu dans mon agenda? Dans mon temps libre, y a-t-il de la place, ou je dirais même une place de choix, pas n'importe quelle place, une place de choix, non seulement de mon temps libre, mais quand je suis occupé. Oui, parce que Dieu n'est jamais occupé pour nous. Y a-t-il de la place, frères et sœurs, dans mon agenda pour la vie de l'Église, si je suis convaincu que ce projet de Dieu pour ses enfants, afin qu'ils grandissent, et qu'ils parviennent à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est dans l'Église que ça se passe. Le règne de Dieu et sa justice devraient être visibles aussi dans la gestion de mon temps. Dans la gestion de mon temps. Laissez Dieu régner dans ma vie. Et rechercher ce qui est juste à ses yeux, c'est aussi lui soumettre la gestion de mes talents, de mes dons, de mes capacités, quelles qu'elles soient. Et nous en avons tous, des dons, des talents, des capacités, des aptitudes. Nous avons tous des aptitudes. Est-ce que je mets mes aptitudes au service de l'Église, au service du Seigneur dans l'Église? Est-ce que je fais une priorité de savoir qu'aujourd'hui il y a culte pour que tout le monde y soit, pour que la priorité puisse être dans mon église, pour louer le Seigneur, pour lui donner la première place? Le règne de Dieu et sa justice devraient être aussi visibles dans la gestion de mes talents et de mes aptitudes. Prenons encore le domaine de mes biens matériels ou de mes finances. C'est un sujet brûlant, n'est-ce pas? Sujet sensible. On n'ose pas en parler. On n'ose pas en parler. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens, c'est vrai, c'est une évidence. Mais nous avons tous des moyens. Nous avons tous des moyens. Et l'exemple de la veuve dans les évangiles qui a donné ces 2 petites pièces, qui a donné de son nécessaire et non pas de son superflu. Alors ne me dites pas qu'un jeune ne peut pas donner 1 euro ou 2 euros. Eh bien, cela nous rappelle, cette veuve nous rappelle que cette question des biens matériels et des finances n'est pas juste une question de zéro. sur le chèque que je mets dans la boîte de l'offrande lors du culte? Y a-t-il de la place pour Dieu, pour son œuvre, pour l'avancement du règne de Dieu dans la gestion de mes biens, pour l'avancement de son règne, de son œuvre, ici, dans l'église d'Argenteuil? Y a-t-il une place pour Dieu? Faisons-nous de cela une priorité. Y a-t-il de la place pour Dieu, frères et sœurs, pour son œuvre, pour l'avancement de son règne? Et je pourrais encore continuer pendant longtemps. Et je pourrais, par exemple, parler encore de la famille, parler du mariage, parler du travail, parler de la scolarité, parler des relations, parler des loisirs. Et je ne suis pas exhaustive. Exhaustive. Quelle est la place de Dieu dans chacun de ces domaines? Est-ce que Dieu a son mot à dire dans ces domaines-là? Bien souvent, beaucoup d'échecs sont dus justement parce que nous n'avons pas consulté Dieu, parce que nous n'avons pas donné à Dieu la première place dans nos décisions. Quelle est la place de Dieu dans ces domaines de ma vie? Est-ce que Dieu a son mot à dire dans la manière dont je vis ma vie de famille? Dans la manière dont je suis père, dans la manière dont je suis mère, dans la manière dont je suis fils ou fille, grand-père, grand-mère? Est-ce que Dieu a quelque chose à voir avec ça? Ou est-ce que cela passe au second plan dans ma vie chrétienne et dans ma vie d'église? Est-ce que Dieu a son mot à dire dans la manière dont je vis ma scolarité, dans la manière dont je vis mes études, dans la manière dont je vis ma sexualité, dans la manière dont je vis ma vie professionnelle, dans la manière dont je vis mes loisirs? Est-ce que Dieu a son mot à dire dans toutes ces choses, dans ces domaines de ma vie? Cherchez premièrement le règne de Dieu, le royaume de Dieu dans ma vie, et ce qui est juste à ses yeux, c'est œuvrer pour laisser Dieu régner dans tous les domaines de ma vie. Lui donner la primauté dans tous les domaines. Chercher à prendre des décisions dans tous les domaines en fonction de sa parole. Chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu et laisser ainsi Dieu régner dans ma vie. Alors, je le sais, oui, vous, comme vous, c'est un combat. Ce n'est pas facile, je l'ai déjà dit en introduction, c'est même un combat de tous les jours. C'est un combat difficile parce que, pourquoi? Parce que nous allons à contre-courant. Nous allons rencontrer des difficultés. Vous aurez des tribulations, mais rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. Mais si c'est un combat difficile, frères et sœurs, c'est néanmoins le bon combat. Et c'est assurément le bon combat parce que cette nouvelle année, le Seigneur nous ouvre des cases à remplir. Il me reste un point pour terminer, c'est la troisième question de notre texte. Que se passe-t-il quand je recherche ou quand nous recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice? La réponse aussi est dans le texte. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À quoi Jésus fait-il référence ici? Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi vous vous inquiétez? Vous inquiétez de toutes ces choses? Si nous recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, il n'y a pas de souci à se faire. Et là, c'est bien évidemment le contexte qui va nous renseigner. Et quand nous regardons le contexte immédiat que j'ai lu, que nous avons déjà lu, nous comprenons très vite que cette parole de Jésus arrive à la fin d'une discussion sur les inquiétudes de la vie. Je n'ouvre pas ce chapitre des inquiétudes car il y aurait trop de choses à dire, mais dans ces versets, Jésus dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'inquiéter pour leur vie. Versets 25 et 31. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Quel est le raisonnement de Jésus? Pourquoi Jésus demande à ses disciples de ne pas s'inquiéter pour leur nourriture et le vêtement? C'est naturel, frères et sœurs, après tout, de s'inquiéter pour ces choses-là. Eh bien, la réponse nous est donnée aussi au verset 32. Car cela, dit Jésus, ce sont les païens, ce sont ceux qui sont sans Dieu qui recherchent cela. Ce sont eux qui s'inquiètent pour ces choses. Et votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Nous avons un Dieu qui s'occupe de certaines choses pour nous, mais nous voulons prendre ces choses et nous occuper nous-mêmes de ces choses-là. Frères et sœurs, je vous mets au défi. Laissez ça à Dieu. Laissez Dieu s'inquiéter pour nous de ces choses-là. Laissons-le s'inquiéter pour ces choses. L'inquiétude est l'opposé de la foi. La vie d'inquiétude est à l'opposé de la vie de confiance en Dieu. Et Dieu désire pour chacun de nous que nous vivons dans la confiance. Et non pas dans l'inquiétude. Non pas dans l'inquiétude. Dieu veut que nous vivons dans la confiance. Et je peux le faire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons vivre dans la confiance. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que lui-même prend soin de nous. Et que mon Père Céleste connaît mes besoins. Il veille sur moi et il promet de pourvoir à mes besoins. Non, pardon, à tous mes besoins. Jésus demande à ses disciples ici de faire entièrement confiance à Dieu pour les choses indispensables de la vie. Et parce que je fais confiance à Dieu qui a promis de prendre soin de moi, parce que je fais confiance à Dieu qui prend soin des oiseaux du ciel et des lys des champs, à combien plus forte raison qu'il prendra soin de moi et de vous. Parce que je fais confiance à Dieu pour les choses nécessaires de la vie, l'inquiétude devient complètement inutile pour ces choses. Et bien sûr, je peux me donner pour chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je libère du temps, je libère de l'espace, je libère mon esprit. Et du coup, je suis un peu libre, plus disponible pour ces choses-là, pour rechercher premièrement le royaume et sa justice. Et je peux le faire parce que je sais que Dieu connaît mes besoins. Il sait que j'ai besoin de nourriture et de vêtements. Dieu, il sait que j'ai besoin de toutes ces choses. Alors je ne m'inquiète pas pour ces choses. Parce que Dieu me le demande. Ne vous inquiétez de rien. Je peux le faire parce que Dieu promet de prendre soin de moi. Il promet de prendre soin de tout ça pour moi. Et si seulement si je cherche à le mettre à la première place dans ma vie. Dans ce passage et dans tout ce que Jésus est en train de dire ici, alors c'est souvent binaire, hein, il n'y a pas de nuance dans les affirmations de Jésus, hein, mais il y a deux alternatives qui nous sont proposées ce matin. Deux. Il n'y en a pas trois. Il y a celle de faire dépendre entièrement de soi l'obtention de ces choses dont j'ai besoin. Alors bien sûr, je m'inquiète, je tourne cela dans tous les sens, et cela me ronge, et je passe ma vie à m'inquiéter pour ces choses. C'est moi qui prends les choses de A à Z, c'est pas Dieu. Et le résultat, c'est que je suis pris par l'inquiétude, je suis habité par cette inquiétude, et je vis comme il est dit au verset 24 de notre texte, regardez, pour ne plus servir Dieu, mais servir Mammon. Et puis, l'autre alternative, c'est de se remettre à Dieu. En faisant ma part, bien évidemment. Hein. Et je finis par laisser, entre guillemets, je laisse Dieu s'inquiéter de cela. Et je lui laisse la première place. Et le résultat, c'est que dégagé de cette inquiétude, je peux alors me consacrer à quoi? À la recherche de la première place pour Dieu dans ma vie. Parce que toutes ces choses me seront données par-dessus. La tendance naturelle de l'homme, c'est de se faire du souci pour sa vie. C'est vrai. Mais Jésus nous dit de ne pas emprunter ce chemin-là ce matin. Jésus nous dit ce matin d'aller à contre-courant et de prendre le chemin de la confiance. Le chemin de la dépendance de Dieu qui pourvoira à nos besoins. Pourquoi? Parce qu'il le promet. L'ordre des choses que nous trouvons ici, c'est finalement celui que nous trouvons ailleurs dans les Écritures. C'est toujours le même. Dieu en premier. Voilà le titre du message. Dieu en premier. C'est celui que nous trouvons dans le Notre Père, par exemple. Est-ce que le Notre Père commence par « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » Non. Notre Père qui est aux cieux. Dieu en premier. Avant nous-mêmes. Et c'est cette même priorité que nous trouvons dans notre texte ce matin. Je le redis, il y a une légitimité à chercher ces choses. Le manger, le boire, le vêtement. Quel bon père de famille, quelle bonne mère de famille ne veut pas ces choses pour lui-même, pour ses enfants, bien sûr. Ce verset ne nous invite pas à la déresponsabilisation, à la paresse, mais à la confiance en Dieu. Il est donc question, et ici je termine dans ce verset, de priorité, d'ordre des choses, de ce qui vient en premier et de ce qui vient ensuite. Et Dieu tout simplement nous invite à lui donner la première place, tout simplement, dans nos vies, dans notre vie. Il désire que nous le cherchions, lui, non pas le manger, le boire, etc. Non, nous devons le chercher, lui, premièrement. Et lui s'occupe de faire le reste. Lui s'occupe que nous ne manquions de rien. Alors la question est pour nous, et saurons-nous, frères et sœurs d'Argenteuil, prendre Dieu au mot? Serons-nous prendre Dieu au mot en 2023? Et j'aimerais nous encourager à le faire. Je me suis encouragé moi-même à le faire en préparant ce message. J'aimerais nous encourager à prendre Dieu au sérieux dans cette parole de Matthieu 6, 33. J'aimerais nous encourager à prendre la décision de chercher à mettre Dieu en premier dans notre vie tout au long de cette année. J'aimerais nous encourager à toujours plus compter sur lui et il prendra soin de nous. Frères et sœurs, faisons de 2023 du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, notre préoccupation première. Et Dieu lui-même prendra soin de nous. Amen.